Chapitre 10. Le samedi matin, André se réveilla en sursaut. Dans son esprit encore flottant, l'idée qu'il allait revoir Jeanne jaillit aussitôt. Il s'était endormi la veille en pensant à elle. Il se réveillait sans que la nuit eût rien changé au cours de ses réflexions. Il s'assit sur son séant, revêtu d'un gilet de tricot à manches qu'il mettait le matin et le soir pour fumer et pour lire, roula une cigarette et, les bras relevés en anse de chaque côté de la tête, il se posa cette question. Faut-il prévenir Mélanie que la petite viendra ce soir ou faut-il ne rien lui dire? Il ne doutait point, par exemple, que dans un cas comme dans l'autre, la bonne allongea une mine bourrue et un nez pincé, mais ses prévisions s'arrêtaient là. Comment prendrait-elle la chose? Il était très inquiet, craignant qu'elle ne jouât son va-tout, et n'expliqua péremptoirement sa résolution bien arrêtée de ne servir personne d'autre que son maître. Et au fait, poursuivit-il mentalement, je la paye pour soigner mon intérieur de garçon, et non pas pour obéir à des femmes. Logiquement, si elle refuse, elle sera dans son droit. Je ne puis exiger qu'elle partage, pour 35 francs, ses égards et ses coups de brosse entre Jeanne et moi. Après cela, que je la prévienne ou que je ne la prévienne pas, la situation reste la même. Le déjeuner doublé et les bottines cirées en plus n'en existe pas moins. Ben, ça, mais je deviens imbécile, se dit-il soudain. Il n'y a pas de garçon qui ne reçoive chez lui des maîtresses et leurs bonnes se taisent. Mélanie agira comme elle. Le tout est de résoudre, s'il ne vaudrait pas mieux l'aplatir d'un coup, en lui laissant voir une femme sous les draps et l'empêcher ainsi, hébété par les stupeurs qu'elle a toujours longue, de préparer ses moyens de défense, ou bien s'il ne serait pas plus prudent, de la sonder avec précaution et d'avoir ainsi le temps d'organiser pour demain la résistance si elle se montrait déterminée à engager la fuite. Ce parti est incontestablement le plus sage, songea-t-il. Allons, je vais tâter le terrain tout à l'heure, ou plutôt non. Je vais annoncer carrément cette nouvelle à Mélanie. Le bon côté de mon premier système, le choc de ma sue sera gardé et je profiterai en même temps des avantages de l'autre. J'aurai la possibilité de parer la réplique. Fiche-toi, voilà le moment, murmura-t-il. Moins décidé déjà, entendant une clé fourragée au loin dans la serrure. Il s'enveloppa de fumée, tirant précipitamment sur sa cigarette. Mélanie tourna et vira dans la cuisine, ouvrit et ferma des portes, puis elle apparut, tenant un journal et des lettres, se plaignant de la bise, sortant des phrases toutes faites, emmagasinées depuis des ans dans sa cervelle et mécaniquement ramenées à chaque fin d'automne aux approches du froid. André déchira la bande de son journal, et pendant que la bonne quittait la pièce, il se recueillit encore, se demandant comment il allait s'y prendre. Il enfila, toujours très indécis, sa culotte, passa dans son cabinet de toilette, poussa la porte de communication, entra dans la cuisine et pria Mélanie de lui verser un peu d'eau tiède dans son verre à dents. Tandis qu'elle penchait sa bouillotte dont le couvercle mal assujetti sur ses charnières claquait au-dessus du mince filet d'eau, chantant dans la rigole, il lui dit « Ah, à propos, Mélanie, c'est aujourd'hui jour de marché, je crois. » Tâchez donc d'acheter, pour pas trop cher, un fin morceau. J'aurai du monde à déjeuner demain. Bien, monsieur. Monsieur voudrait du faux filet ou du roast beef? Non, je voudrais quelque chose de plus délicat, de plus léger. C'est pour une femme. Et il ajouta, en la regardant dans les yeux, qui couchera ici ce soir? Mélanie ne poussa même pas une exclamation. Elle demeura figée, Les bras cassés, la bouche ronde. Ça y est, se dit André, qui sortit immédiatement de la cuisine. La journée s'écoula tranquille. La bonne apprêta et servit le dîner. André jeta un coup d'œil sur elle à la dérobée et il la vit fêlée, presque abattue. Si je faisais tout bonnement des rognons au vin blanc, dit-elle avec effort. Soit, répliqua André. Elle tortilla son alliance à son doigt et elle ajouta: Alors la dame de monsieur est guérie et elle va habiter avec? Non, pas du tout. C'est une autre femme qui vient. Ah! L'hébétude de Mélanie s'aggrava, mais elle sourit néanmoins et partit soulagée, préférant encore l'arrivée de n'importe quelle maîtresse à la rentrée de la femme légitime. Alors André couvrit de cendres son feu bourré de bois, de façon à ce qu'il brûlât lentement jusqu'à son retour, plaça entre les deux chenets une bouilloire pleine, rangea ses papiers, ferma les grands rideaux des fenêtres et s'en fut. La pause qu'il effectua devant la porte de l'atelier de Jeanne ne différa guère de celle qu'il avait déjà endurée. Il stationna seulement par pudeur devant des boutiques autres que celles du coiffeur et du marchand d'objets du Japon. Enfin, pour varier ses plaisirs, il arpenta le milieu de la chaussée, regagna, chassé par des voitures, le trottoir, aperçut Jeanne qui descendait avant l'heure, précédée de son amie veuve, et de nouveau il les accompagna au restaurant. Après avoir, comme l'avant-veille, bu un verre de café, étouffé sous son paletot, il commença à dessiner avec du noir d'allumette sur le blanc taché de bleu de la nappe une vague et sommaire topographie des lieux qu'il occupait. Tu vois bien, dit-il à Jeanne, voici la maison. Ici, la porte cochère et une allée aboutissant en ligne directe à un grand mur. De chaque côté de cette allée, un corps de bâtiment. Eh bien, c'est dans le bâtiment de droite, juste à ce point-ci, là où j'écrase du noir, que débouche mon escalier. Tu n'as qu'à grimper jusqu'au dernier étage. Voilà donc le programme que nous allons suivre. J'entrerai le premier, tu viendras 2 minutes après, je t'attendrai en haut. Tu as bien compris, n'est-ce pas? Oui, c'est entendu. Je prends à droite et je monte aussi haut que je puisse monter. C'est cela même. Ah bien, mais si le concierge s'informe où je vais? Dame, reprit André un peu hésitant, dame, tu diras alors que tu as une lettre pressée à me remettre. Attends, je vais en préparer une. Et il se fit apporter de quoi écrire, cacheta une enveloppe vide et posa dessus son adresse. Et puis, conclut-il en se tirant les doigts pour les faire craquer, après tout, je me fiche pas mal du concierge. Cette tardive assurance égaya la petite qui savait depuis longtemps à quoi s'en tenir sur la bravoure d'André. Ils partirent du restaurant, saluèrent la veuve Lavaux, et alors André parla de Mélanie pour la première fois. Déclara qu'elle était bébête et toquée, mais qu'elle était très brave femme. Appuya sur ce point qu'il ne faudrait pas s'occuper de ses mines bougonnes si elle en avait. Affirma enfin, sans assurance, qu'il était bien convaincu qu'une parfaite entente s'établirait entre les deux femmes. Jeanne, très soucieuse, ne souffla plus mot. À son tour, elle fut prise de frayeur devant cette bonne installée dans un logement. Elle redouta des froideurs méprisantes et des avanies. Et quand elle sut que Mélanie s'était mariée, sa terreur s'accrut. La situation fausse qu'elle allait avoir dans ce ménage, formé depuis des mois et fonctionnant sans arrêt, l'épouvanta. Elle comprit qu'elle ne pourrait être qu'une étrangère en visite, que, dans ce mécanisme de vie intérieure, elle ne serait qu'un inutile rouage ajouté par suite d'un hasard ou d'une fantaisie, et qui se briserait sans interrompre en rien la marche régulière de la machine. L'impossibilité de posséder à nouveau et en entier son amant lui apparut. Elle regretta presque la liaison qu'elle voulait renouer. « Qu'as-tu ? » interrogea André, étonné de son silence. « Mais rien, » dit-elle très bas. Ses craintes se développaient. Le concierge, qui la préoccupait peu jusqu'alors, se dressa devant elle, prenant des proportions formidables. Elle le vit aux côtés de Mélanie, dans le cœur, la cour, semblable à deux dogues furieux, prêts à lui sauter aux jambes. Elle se sentit perdue. La grossière optique de la peur cessa pourtant. André lui caressait la main et elle s'appuyait sur lui, espérant tout de même une assistance et une affection. Mais bien que convaincue qu'elle exagérait ses transes, elle ne put cependant chasser l'image de cette Mélanie qu'elle se représentait comme un grand dragon, vieux et roide, la regardant du haut en bas, en sa qualité de femme mariée et de servante, maîtresse d'une maison, dominatrice du caractère incertain d'André. Elle se serra plus étroitement encore contre son amant, appuyant presque sa joue sur son épaule, éprouvant le besoin de se faire petite, se promettant de se glisser dans l'entrebâillement des portes et de saluer bien bas tout le monde. « Ah, ce n'est plus comme jadis, » soupira-t-elle, le cœur gros. « Mais si, mon petit chat, rien n'est changé, » reprenait-il, affectant une confiance qu'il n'avait pas. Car le trouble qui rendait chagrine la figure de Jeanne ranimait le sien. « Tu verras, ça ira tout seul. » « Alors voyons, madame, montrez un beau sourire au monsieur, » dit-il en essayant de la distraire de ses pensées tristes. Elle eut sous son voile un sourire pâle. André commençait à être mal à l'aise. Heureusement qu'ils avaient atteint sa rue. Il remit à Jeanne l'enveloppe, entra rapidement, escalada les 5 étages et là, penché sur la rampe, il attendit. Un petit bruit sec de pas retentit bientôt au loin à des profondeurs de cave sur le dallage du vestibule, puis le bruit, devenu presque aussitôt plus sourd, monta dans la cage de l'escalier, s'approchant, accompagné d'un petit vibrement de rampe remuant sur ses barreaux et d'un froufrou de linge empesé ratissant les marches. André ne voyait rien. Les becs de gaz placés au-dessus de lui, séparés les uns des autres par 2 étages, l'aveuglaient sans rien éclairer. Jeanne émergea enfin sur le palier du 4e, s'avança en pleine lumière, essoufflée un peu d'avoir grimpé si vite. Il toussa légèrement, elle leva le nez et ils se sourirent sans parler. Elle arriva près de lui enfin. Il la prit par la taille et la poussa dans sa porte, qu'il referma tout de suite sur eux, et alors toutes ses agitations cessèrent. Il était chez lui, libre. « Le concierge ne t'a pas questionné ?» murmura-t-il en allumant sa bougie. « Oh non, il m'a pas aperçu. Oh, j'ai filé tout doucement devant la loge. Il lisait un journal et il n'a même pas bougé la tête. » « Allons, alors tout va bien. Débarrasse-toi de tes affaires. » Et il l'embrassa tendrement et se mit à fourgonner dans les braises qui rougeoyaient dans sa cheminée sous de la cendre. Il entassa ensuite de nouvelles bûches, baissa la trappe, aida Jeanne à sortir de son manteau, approcha un fauteuil, mais elle refusa de s'asseoir, voulant d'abord visiter le logement. Elle regardait le petit salon où ils étaient, reconnaissait d'anciens bibelots, une gravure de Dolé d'après Teniers, une vieille estampe de Bruegel le drôle, des assiettes de faïence et des plats de cuivre. « Tiens, tu avais cela de bon temps, » disait-elle. « Ah bien, oh, j'ai souvent pensé à toi quand je voyais des assiettes accrochées chez les bric-à-brac. » Et elle ajouta, contemplant les aquarelles impressionnistes qu'elle n'avait jamais vues, Tiens, voici du nouveau. C'est joli, mais pourquoi donc ce n'est pas terminé ? Oh ! Fit-elle tout à coup en se retournant. Et elle leva la lampe, enveloppa dans le rond de lumière rabattu par l'abat-jour la cheminée. Qu'est-ce que c'est que ça ? Et elle considéra avec une petite moue d'horreur une extravagante chimère du Japon, cuirassée d'écailles rouges et vertes, la patte sur une boule, la langue retroussée et la queue en panache, les yeux en saillie, projetés comme au bout de pédoncule. « Dieu que c'est laid !» cria-t-elle. Puis, tenant toujours la lampe, elle passa, suivie d'André, dans la chambre à coucher, séparée du petit salon par une portière. Elle se tourna de tous les côtés et dit « Ah, ça, par exemple, c'est gentil !» Et elle admira un table de nuit, chiffonnier, en bois de rose, Louis XVI, s'extasiant sur le marbre neuf, sur les serrures dorées nouvellement posées. Mais ce qui l'étonna le plus, ce fut le lit. Elle ne retrouvait plus le vieux galetas de fer qu'elle avait autrefois connu. André lui expliqua brièvement, tout en commençant à la serrer de près, que celui-ci était un lit en bois blanc, laqué, forme Louis XV. « Voyons, voyons, sois donc sage, » disait-elle en lui tapant sur les doigts. Il cessa le jeu auquel il se livrait, et il affirma qu'elle aurait l'étrenne de ce beau lit. Elle sourit, lui reprochant de mentir avec tant d'aplomb. Il répéta ce qui était la vérité, qu'il n'avait jamais reçu de femme dans ce logement, et que ce lit avait été acheté tout récemment depuis son entrée dans cette maison. Elle ne le crut pas, et il renonça sagement à la convaincre. « Sais-tu que c'est gentil, tout ça ?» reprit Jeanne, contemplant encore les meubles, et elle ajouta « Et puis c'est bien propre !» Il jugea de son devoir de déclarer qu'à ce point de vue-là, Mélanie était vraiment une femme remarquable. Ce nom rembrunit de nouveau Jeanne. Elle redevint troublée. Mais elle reprit son babil en entrant dans le cabinet de toilette. Ravie, elle s'écria « Ah, voici qui est agréable. Avec une pièce comme celle-là, nous ne serons plus comme dans le temps. » Elle s'arrêta un peu rouge, et ils rirent tous deux, se rappelant, elle, certaines gênes intimes, lui, certaines visions, farces, emplissant son unique chambre. Il se tira la moustache un peu allumée, puis il réembrassa la petite, élevant la pot à eau, ses regards ainsi enlacés à elle dans la glace pendue au-dessus de la cuvette. Mais Jacques se dégagea et se mit à tripoter les objets de la toilette. Elle déboucha la boîte à poudrerie, fourra son nez dedans, enleva à moitié la houppe comprimée contre les parois de buis, et poudra la toilette d'un fin nuage rose, puis elle toucha au rasoir, aux brosses, et mouilla l'étoffe de sa robe à l'endroit où se tasse la pointe du sein, de quelques gouttes d'essence de frangipane en vidange dans un flacon. « Où donne cette porte ?» Et elle désigna entre deux armoires une porte vitrée habillée d'un rideau de serge. « Dans la cuisine, » répondit André, qui appuya sur le loquet. Il l'invita à entrer, mais elle ne le voulut pas. Elle semblait avoir peur de mettre le pied dans l'antre, même lorsque le fauve n'y est point. Elle hasarda seulement le bout de son nez, vit les bataillons étincelants des casseroles et des plats, s'épeura encore devant un bonnet en tuiles noires à choux, laissant pendre des bris de vert pomme sur l'ocre du mur. « C'est bien propre, » murmura-t-elle. Et prenant la lampe, elle refusa de franchir la cuisine pour gagner la salle à manger, après regardant vaguement que Mélanie ne s'aperçut qu'une femme était entrée dans la cuisine, et elle repassa par la chambre à coucher. « Tu vois, ce logement est commode, » fit André. « Aucune pièce ne se commande. » Elle apprécia, elle aussi, cet avantage, puis revint s'asseoir dans le salon. Le feu grondait furieusement, crachant des braises sous la trappe. Elle la releva avec les pincettes, et constatant qu'André possédait toujours de beaux volumes, elle s'enquit s'il avait encore les œuvres d'Alfred de Musset et d'Henri Murgère. Il déclara les avoir vendues parce que c'était des choses encombrantes et inutiles. Elle le regretta, car il eût été content de les relire. Il offrit de lui acheter des exemplaires choisis de ses livres. Elle le remercia et sourit un peu quand il apprêta son thé. Elle le retrouvait après 5 ans, préparant son infusion de la même manière, échaudant le métal anglais avec l'eau qu'il reversait dans la bouillotte, ouvrant le couvercle fermé de la théière, faisant couler par ce trou la pluie noire des feuilles, les inondant enfin un grand flot d'eau chaude. Elle riait, renversée dans le fauteuil, répétant « Ah, t'as pas changé !» Puis elle se redressa, et liant ses bras autour du cou d'André, elle le baisa à petite lapée. « Prends garde, mon chat, » dit-il, « tu vas me faire renverser la bouilloire !» Oh, pas changé du tout ! Et elle poursuivit un peu piteusement. « Tu n'aimes toujours pas beaucoup que l'on te caresse. »« Mais si, mais si !» s'écria André, qui l'embrassa tendrement, s'attardant sur ses lèvres. Puis, voulant aborder une conversation moins prévue, il l'interrogea. « Voyons, ma chère Jeanne, qu'es-tu devenue depuis 5 ans que dure notre séparation ?»« Mais rien, je te l'ai déjà appris quand tu m'as questionné. » Et un peu défiante, elle se renferma dans des phrases vagues. Enfin, tu ne me feras pas croire que tu n'aies eu, depuis que nous nous sommes perdus de vue, ni haut, ni bas, ni plaisir, ni peine. Non, bien sûr, j'ai eu de mauvais jours comme les autres, à preuve. Et elle narra que, ne pouvant se procurer à une époque de chômage du travail, elle s'était empoisonnée. « Bah !» fit André. « Mais oui, je me suis empoisonnée. » Et Jeanne raconta que s'étant couchée, elle avait mis une camisole blanche et avait avalé un verre d'eau de laudanum après y avoir préalablement versé quelques gouttes d'alcool de menthe pour que ce ne fût moins mauvais. « Eh bien, » dit André, « qu'est-il arrivé ?»« Oh, rien, seulement j'ai été malade pendant 15 jours. J'ai tout rendu sur l'oreiller. »« Ah, veux-tu du sucre ?» Et il lui tendit une tasse pleine de thé. « Merci, non, non, je ne mets qu'un morceau. » Il se tut pendant quelques instants, tourmenté par la crainte que Jeanne n'eût les chairs blettes. Il essaya doucement de s'en assurer, mais elle le pria de rester sur sa chaise, tranquille. Alors il parla de Madame Lavaux. Elle ne la connaissait pas au temps où ils étaient ensemble. « Non, il y aura 2 années, tiens, juste le mois prochain, que nous nous sommes rencontrés. Oh, c'est une drôle d'histoire tout de même, » dit Jeanne pensive. J'ai connu Eugénie longtemps après son veuvage, car elle a été mariée pour de vrai, tu sais. Elle habitait un hôtel de la rue Contrescarpe, dans la chambre au-dessous de la mienne, et un matin, le garçon m'a appris, en me montrant mes chaussures, que la femme du dessous et de son enfant ne mangeait pas depuis 2 jours. Alors j'ai cuit du chocolat, et puis je suis allé les voir. Eugénie était couchée, dormait, et sa petite, oh, une mioche de 10 mois, habillée d'une robe à traîne, taillée dans un ancien imperméable à carreaux, se tenait après les chaises et se fichait à tout bout de champ sur le nez par terre, piaillant, les jambes empêtrées dans sa grande robe. Voilà. Alors elles ont mangé le chocolat, et puis moi je suis resté ami avec la mère, mais la petite est morte 1 an après du croup. André resta songeur, se répétant tout bas cette vérité que les femmes du peuple s'entraident et soignent, presque toutes des voisines affamées ou malades qu'elles ne connaissent point, tandis que les femmes de la bourgeoisie laissent généralement crever comme des chiennes les personnes auxquelles aucun plaisir ou aucun intérêt ne les rattache. « Ah, ce n'est pas pour dire, » reprit Jeanne après une silence, « mais je t'assure qu'elle a connu une dure misère, Eugénie, et qu'il faut qu'elle en ait un estomac, car elle ne mangeait dans le temps par économie que des pommes de terre et ne buvait que de l'eau de sels pure. » André ne put se défendre d'admirer l'estomac vraiment incroyable de Madame Lavaux. Elle avait été lâchée par un amant quand tu l'as trouvée dans cette misère-là, dit-il. Oui, oh, c'était un rien du tout que son amant. Du reste, tu sais, les hommes. Eh bien, voyons, eh bien. Elle sourit. Ce n'est pas toi qui agirais ainsi avec moi, fit-elle câlinement en le baisant sur les yeux. Il l'entoura de ses bras pour toute réponse. « Dis donc, » lui souffla-t-il dans l'oreille, « il est 11h30, si nous allions faire couche-couche ?» Elle rougit un peu. Il s'enfuit dans la pièce voisine, ouvrit la couverture, posa les oreillers l'un à côté de l'autre, puis il revint demander à Jeanne si elle couchait au bord. Ben « oui, certainement, il m'était impossible de dormir dans la ruelle. » Alors il rentra dans sa chambre et enfouit son mouchoir sous l'oreiller du fond. Il arrangea proprement le couvre-pied, le lissant avec le plat des mains, puis il se rendit dans le cabinet où il séjourna pendant quelques instants, enleva ses habits rapidement, mit sa chemise de nuit, inquiété encore par cette crainte persistante que Jeanne ne fût devenue molle. Tout était prêt pour le coucher. Il avait laissé de l'eau tiède, tiré le seau, préparé les serviettes. Il retourna près de la petite et lui offrit les mains pour qu'elle se levât du fauteuil. Toute frissonnante, les yeux brillants, les cheveux dérangés sous le front, elle quitta le salon et disparut dans la pièce réservée où elle tâcha de faire le moins de bruit possible, s'arrêtant confuse dès que le pot à eau sonnait, en se cognant contre la cuvette. André s'était étendu dans le fond du lit. « Je t'en prie, mon petit André, dit-elle lorsqu'elle rentra, tourne-toi la figure du côté du mur. » Il répliqua en riant, « Mais tu es bête, mon petit Minet, que diable voyons. Nous sommes de vieilles connaissances. » Mais elle insista, presque suppliante. Alors, pour la satisfaire, il fit volte-face. Jeanne se déshabilla au plus vite. « Dis donc, » murmura-t-elle. Il retourna tête. « Non, 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 ne bouge pas. » Et toute rieuse, elle se glissa lestement sous les couvertures. Amusé par ses enfantillages, il la saisit à plein corps. Il fut subitement possédé d'une joie folle. Jeanne était solide comme du marbre, rebondi et moulé à point. Ils fermèrent les yeux très tard au petit jour. Ils dormirent mal, du reste, d'un sommeil impatient et fiévreux. À 9h, Jeanne réveillée fut prise d'alarme. La terrible Mélanie, qu'elle avait presque oubliée, lui revint en mémoire et la glaça. À tout prix, elle ne voulut pas être vue couchée et elle sauta du lit. Mais il n'est pas tard, dit André. C'est aujourd'hui dimanche. Tu ne vas pas à ton atelier ? Elle se refusa à rien entendre. Un cliquetis de clé accompagné d'un bruit de pas entrant dans le logis l'effara complètement. Elle eût voulu pouvoir se couler sous un meuble, se cacher derrière un fauteuil, disparaître coûte que coûte. Tout en la traitant doucement de poltronne, André se répéta que c'était le moment d'être énergique et de dompter Mélanie si elle faisait mine de hausser la voix. Jeanne n'osait plus maintenant entrer dans le cabinet de toilette. Elle avait peur que la bonne n'ouvrît la porte de communication. Les savates qu'elle entendait traîner dans la cuisine lui donnaient des vertiges et des battements de cœur. Elle regretterait presque d'être debout, pensant que si elle était restée couchée, elle se serait enfoncé le nez dans les oreillers aux approches de la bonne. Comprenant qu'il fallait pourtant bien se débarbouiller dans l'autre pièce, elle se hasarda sur la pointe des pieds, cacha sa gorge sous un foulard, se nettoya à la volée, revint au plus vite, apportant la poudre de riz et le peigne dans la chambre à coucher, se croyant plus à l'abri près du jeune homme. Celui-ci pensa encore qu'il ferait bien de se lever et d'exécuter, sous un prétexte quelconque, une reconnaissance du côté de la cuisine. Il éprouvait pour l'instant une fermeté virile. Il voulut profiter de ses dispositions et il chaussa ses pantoufles d'un air belliqueux, résolu à livrer bataille. Il rôda dans la salle à manger, feignant de chercher son journal, et il aperçut, par la porte grande ouverte de la cuisine, le dos de Mélanie et ses coudes battant en mesure au-dessus du fourneau, attisant avec un soufflet les braises. Elle se retourna et lui souhaita le bonjour. « À quelle heure, monsieur, déjeune-t-il » demanda-t-elle d'un ton gracieux. Et elle montra à André, criant triomphalement « Hein, sont-ils beaux ?» Des rognons violâtres et vernis, durs et élastiques, repoussant le doigt qu'elle y appuyait. « Dans un petit quart d'heure, » répondit André, un peu ennuyé, malgré tout de ne pouvoir user de la bravoure provisoire qui l'animait. Il s'en fut retrouvé, Jeanne, occupée à faire chauffer les pincettes pour se friser. Elle était maintenant presque vêtue, et se voyant propre et couverte, elle reprenait un peu d'assurance, redoutant moins le premier coup d'œil de la bonne. « As-tu faim ?» lui dit André. « Au couci couça. » « Ah !» reprit-il tout à coup, « où sont donc tes bottines que je les fasse cirer ?» Mais elle les lui montra propres et luisantes comme des miroirs. Il resta stupéfait. Elle avoua en riant qu'elle avait pris les brosses à souliers la veille au soir, pendant qu'elle était seule dans le cabinet de toilette. Il la gronda, mais il lui sut tout de même gré de sa discrétion. « Eh bien, puisque tu es prête, nous allons, si tu veux, nous mettre à table. » Elle ne répondait ni oui ni non, cantonnée dans la chambre où elle persistait à penser, sans savoir pourquoi, qu'elle courait des dangers moindres. Mélanie arriva sur ses entrefaites. Les deux femmes échangèrent un coup d'œil, Jeanne toute troublée, Mélanie sans assurance. « Monsieur est servi !» dit la bonne. Encore estomaquée, Jeanne ne bougeait pas. Au fond, elle commençait cependant à se remettre de ses transes. La servante ne lui parut pas ressembler à ce redoutable et vieux dragon que la peur lui faisait voir. « Mais elle est toute jeune, ta bonne !» dit-elle à André. Et comme un enfant qui s'étonne, la première fois qu'on le mène en classe, que la maîtresse d'école n'ait pas la mine plus rébarbative et plus rogue, elle ajouta « Bon, elle n'a pas l'air bien sévère. » Les œufs reposaient sous une serviette sur la table. André et Jeanne s'assirent. La salle à manger n'était guère chaude. Le froid humide des fins d'automne glaçait cette pièce exposée au nord. Ils trempèrent des mouillettes et burent une gorgée de vin, sans souffler mot. Les coques étant vides, André donna un coup de timbre. Jeanne eut un malaise extraordinaire. Elle regardait le jeune homme, étonnée et presque chagrine, et elle crispa ses doigts sur sa main comme pour l'empêcher de faire vibrer le timbre. André ne comprit plus. Jeanne paraissait plus intimidée que jamais. Le coup sec appelant Mélanie la blessait. Il lui semblait que, déjeunant avec André, elle était complice de cet ordre bref. Les réflexions qui l'agitaient la veille au soir lui revinrent, et elle fut dominée par un sentiment de pudeur et de gêne. Elle souffrait presque de se voir, elle, une femme du peuple, ayant eu des amants, servie comme une dame par une femme du peuple honnête, et elle en était malheureuse et presque révoltée, de même que si elle avait vu comme mettre une injustice ou infliger à quelqu'un devant elle une humiliation, parce que Mélanie, n'étant pas une pauvre vieille femme et n'étant pas trop laide, l'avalait. Elle baissa le nez et les yeux sur son assiette, craignant que cette bonne ne la considérât comme une catin et une intruse. « Madame a peut-être froid aux pieds, » dit Mélanie d'un ton obligeant. Et sans attendre la réponse, elle apporta et glissa une chaufferette sous les pieds de Jeanne. Celle-ci remercia, ayant presque envie de pleurer, mais cette gracieuseté ne la regardit guère. Elle s'effaça davantage, honteuse de ses attentions. « Sont-ils bons, les rognons ?» questionnait André. « Oh, mais oui, très bons. Eh bien, tends ton assiette !» Et il plongea la cuillère dans le plat. Mais Jeanne résista. « Non, je n'ai plus faim. Non, non, voilà, tu sais, je ne suis pas une grosse mangeuse. » Il fit de nouveau sonner le timbre. La petite se replongea le nez dans son assiette. Mélanie apporta des choux-fleurs gratinés, et voulant être à tout prix aimable, elle demanda à Jeanne, dont la timidité l'étonnait, si la chaufferette était chaude. « Mais oui, madame, vous êtes bien bonne, » dit-elle, en levant un peu les yeux. Lancée sur cette voie, Mélanie s'ingénia à découvrir de nouvelles attentions gracieuses. N'en trouvant point, elle s'en alla. Jeanne était à ce moment torturée par une cruelle angoisse. Elle exécrait les choux-fleurs qui lui étaient contraires, comme elle l'avoua à André plus tard. Elle ne voulait pas cependant refuser d'en prendre. Elle supplia seulement le jeune homme de lui en donner à peine. Et elle se força à les manger, buvant après chaque bouchée une rasade d'eau rougie, n'osant rien laisser sur l'assiette de peur de blesser la bonne. Son supplice touchait à sa fin. Le dessert une fois apprêté, elle grignota un massepain, et André, qui était tout peiné de l'avoir si mal à l'aise, lui proposa, pour la soustraire à la solennité de la salle à manger, de prendre ainsi qu'autrefois le café au coin du feu, dans sa chambre. Elle accepta avec un regard reconnaissant, et une fois assise, réconfortée par un doigt de chartreuse verte, elle babilla, disant que Mélanie était une brave personne, qu'elle avait été bien complaisante et bien polie, et tandis qu'elle débitait sur son compte des phrases aimables, l'autre, dans la cuisine, oubliait ses paniques, pensait que cette petite était trop modeste pour la commander. Elle est comme il faut, pas effrontée, pas houbarde, et elle eut un soupir de soulagement, songeant que c'était une véritable chance de n'être pas tombés sur une gaillarde impérieuse et hardie qui les aurait fait valser tous les deux comme des totons. André pria Jeanne de rester à dîner, mais elle refusa formellement, ne voulant pas ajouter encore un surcroît à la besogne de la bonne, se rendant compte avec son instinct de femme que l'effet produit par sa figure et ses manières n'avait pas été mauvais. Tenant ne pas paraître vouloir s'imposer dans le ménage, voulant enfin que Mélanie gardât d'elle la bonne opinion qu'elle avait conçue.